Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Emmanuel Reynard, bonjour.
Bonjour.
On est à Saint-Maurice, au bord du Rhône. On va parler de ce Rhône, puisque vous organisez avec votre association Mémoire du Rhône un colloque en marge des fêtes du Rhône. Ça sera le week-end prochain. On va en parler assez largement. Pourquoi cet endroit-ci du Rhône? Il a quelque chose de particulier? C'est le Goulet?
Alors c'est le Goulet, alors je devrais pas le dire pour des Chablaisiens, mais c'est souvent considéré comme un petit peu l'entrée du Valais, ce qui n'est pas le cas.
Vous l'avez dit.
Ce qui n'est pas le cas. Non, j'ai choisi
parce qu'il fallait. Aussi,
voilà,
hein,
il y avait des contraintes. Il y avait des contraintes géographiques, et puis je l'ai choisi aussi parce que c'est un endroit où le Rhône est en partie dévié pour la production hydroélectrique et où il revient en fait.
Alors ça on va en parler tout de suite, hein, parce que tous ceux qui se baladent par ici l'ont vu. Le Rhône, à un moment donné, sort du rocher sur la commune de La Vège, j'imagine.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il entre où?
En fait, il entre un petit peu plus haut et à l'amont du cône du Bois Noir. Et en fait, le Rhône, à l'amont du Léman, est très peu exploité pour l'hydroélectricité. En fait, quasiment les deux seules usines, elles sont là où on a les deux grands cônes de déjection, le Bois de Finge et le Bois Noir. Et on utilise la chute de quelques dizaines de mètres qui est suffisante, vu les débits, pour produire de l'électricité.
Mais ça veut dire qu'on a creusé le rocher pour ça?
Voilà, on a dévié une partie du flux, des débits, et puis il y a l'usine, et ensuite, là où ça ressort, c'est la restitution de l'eau au Rhône.
On peut traverser sur une barque ce tunnel fluvial?
Je ne sais pas. Non, je l'ai jamais fait.
J'imagine que les hydroélectriciens pour tirer ça au clair. Bon, en tout cas, on voit la différence de débit. On voit quand on voit les deux bras, celui qui sort du rocher, qui est très calme, parce que j'imagine il est passé par ces turbines calmantes, et puis le fleuve lui-même.
Oui, exactement.
Alors, le Saint-Maurice, ce Rhône, il y a quelque chose de particulier, en effet, c'est le Goulet. On est dans un moment politique depuis 20 ans autour de la correction du Rhône, et puis on est autour de ces fêtes du Rhône qui renaissent. Un mot là-dessus, elles sont nées en 1926, il y a eu toute une démarche pour faire du Rhône un trait d'union, c'est d'ailleurs le thème de votre colloque. Un des aspects de votre colloque. Et puis elles ont disparu comme ça, ça s'est essoufflé et ça renaît cette année.
Voilà, c'est vrai que ces fêtes du Rhône, elles sont nées en France. Il y a eu plusieurs éditions en Suisse et l'idée c'était de véhiculer une certaine culture rhodanienne. Le fleuve finalement est un lien entre non seulement la France et la Suisse, mais aussi des cultures tout à fait différentes. Si on compare la culture en Camargue avec celle du Rhône alpin, c'est relativement différent.
On en discutera peut-être, mais il y a aussi une façon d'apprivoiser le fleuve qui est très différente.
Dans ces fêtes du Rhône, dès le début, il y a toujours eu cette volonté d'avoir plusieurs piliers, plusieurs axes. Un pilier populaire, justement, plutôt culturel, avec des concerts, des manifestations, des cortèges, etc. Et puis un pilier peut-être un peu plus politique et aussi scientifique, justement, mais souvent le scientifique au service du Rhône, au service de l'aménagement du Rhône. Faut voir que quelques années plus tard, côté français, on crée la CNR, je me rappelle plus ce que ça veut dire. La conférence la Confédération nationale du Rhône, et qui est une société qui avait pour mission de valoriser en fait le Rhône, notamment pour la production d'énergie, également pour l'irrigation, plus tard pour le refroidissement des centrales nucléaires.
Je voulais parler de vous et puis puis je me suis laissé embarquer par le Rhône. On va y revenir hein, à vous, mais puisqu'on est sur ces fêtes du Rhône, il y a quelque chose qui a un lien immédiat, enfin clair avec ce que vous faites aujourd'hui, ces colloques scientifiques sur le Rhône multidisciplinaires. J'ai regardé un petit peu l'histoire et dès le début, il y a ce souci scientifique. Hein.
Oui,
on
ne
parle pas forcément des mêmes sujets qu'aujourd'hui.
Exactement. Mais les sujets sont différents, mais dès le début, c'est présent et ça va rester tout au long de l'histoire de ces fêtes du Rhône. Et c'est vrai qu'à un certain moment, elle s'essouffle, certainement parce que le modèle, notamment très
populaire,
ne correspondait plus vraiment à l'esprit du
Internet,
temps.
Il y a Internet, il y a la télé.
De manière générale, on voit ça, une diminution de ce genre de manifestation à la fin du XXe siècle. Et là, le groupe qui a voulu faire renaître ces fêtes du Rhône, c'était aussi pour faire... finalement, renaître un pan de l'histoire très récente, mais qui a très vite été oubliée.
Un siècle d'histoire pour ces fêtes du Rhône. Je reviens un petit peu à vous. Vous êtes géographe, prof à l'université de Lausanne. Vous avez travaillé aussi pour la Confédération. Vous êtes la symbiose, finalement, de ce qu'on avait à l'école, hein, parce que vous êtes géographe et vous aimez l'histoire. On parlait d'histoire géo à l'époque. C'était toujours lié, ces deux branches. Hein,
oui.
On ne comprenait pas forcément pourquoi.
Oui, c'est juste. Et moi-même, j'ai été formé à la faculté des lettres de l'université de Lausanne. J'ai un parcours de géographe humaniste, on dira, avec un intérêt pour la géographie physique, mais aussi un intérêt pour les humanités. J'ai d'ailleurs hésité entre l'histoire et la géographie. Et dans le système dans lequel j'étais, après une année, on pouvait commencer un certificat de géologie, donc en appui à la partie géographie physique. Mais il fallait laisser tomber une branche que j'avais en première année. C'est l'histoire qui a passé à la trappe.
D'accord. Qu'est-ce que c'est la géographie physique ?
Alors, la géographie physique, c'est l'étude, on dira, de toutes les composantes physiques de la Terre. C'est principalement l'hydrologie, le climat et la géomorphologie. Moi-même, je suis spécialisé dans la géomorphologie. C'est l'étude du relief. Comment, finalement, l'épiderme de la planète se transforme au cours du temps.
Bon, alors on sait qu'il s'est transformé de façon brutale hein, sur des millions d'années avec les plaques tectoniques.
Je vais chercher loin dans mes
mémoires.
Hein.
Le mot plaque tectonique surgit du passé pour moi, avec la formation des Alpes, etc., des montagnes plus petites. Aujourd'hui, on le voit évoluer ce terrain à l'œil nu.
On voit les
laves torrentielles, on voit les montagnes qui se fragilisent.
Les glaciers qui disparaissent et... En fait, on a effectivement, ils disparaissent, c'est une perte, mais c'est aussi un apport parce que à la place, il y a d'autres choses. Il y a notamment des marges glaciaires avec des systèmes fluviaux pionniers, avec de la végétation pionnière. On a des nouveaux lacs qui sont en train de se former, etc. Donc, finalement, du point de vue, on dira, de la nature, ça n'est pas forcément une perte.
Mais c'est quand même pas tout à fait bonne nouvelle.
Non. C'est de loin pas, c'est pas ça que je veux dire, ça n'est pas une bonne nouvelle que le climat se réchauffe et ses effets, notamment sur les glaciers. Par contre, du point de vue du fonctionnement de l'histoire de la Terre, on ne sera plus là, la Terre sera toujours là.
Oui, donc les choses changent. Je pensais à géographie et histoire. Finalement, la géographie, c'est l'histoire très longue. Hein. Si on va dans votre spécialité,
disons notamment la géologie, qui est une science très proche de la géographie. Son objectif, c'est de comprendre l'histoire de la Terre.
Aujourd'hui, le Rhône pour vous, parce que vous occupez de groupes interdisciplinaires, notamment assez spécialisés vers la montagne.
Hein. Oui.
Le Rhône pour vous, c'est un loisir, ça fait aussi partie de votre travail.
Alors le Rhône, c'est vrai que au cours de ma carrière, comme j'arrive un petit peu dans la dernière phase, on a des évolutions hein, entre disons, pour ma part, j'ai eu des travaux assez spécialisés il y a une trentaine d'années en arrière. Et puis, ensuite, je me suis beaucoup intéressé justement aux aspects interdisciplinaires, parce que je trouve que c'est souvent, c'est parfois brandi comme un slogan, mais opérationnaliser l'interdisciplinarité, ça n'est pas toujours facile. Et le Rhône, en fait, ça a été un des premiers objets il y a 25 ans, sur lesquels j'ai travaillé de manière interdisciplinaire avec des historiens, par exemple.
On va rester un moment sur ce mot interdisciplinaire. C'est vrai qu'il arrive un petit peu partout sur votre CV, hein, que j'ai consulté, et y compris d'ailleurs sur ce colloque interdisciplinaire dont on parlera en deuxième partie. Vous le dites, hein, c'est peut-être de plus en plus à la mode, mais ça a été un combat à un moment donné que les chapelles se réunissent, qu'on prenne un biologiste pour parler avec un géologue, pour parler avec un historien, pour parler peut-être avec un ethnologue, un sociologue, etc.
Exactement. Et c'est ce qui est difficile, c'est déjà de trouver le langage commun, parce que parfois on va utiliser le même mot, mais avec des significations, des contextualisations tout à fait différentes. Ensuite, il faut, disons, être ouvert aux autres disciplines. Et certains font de l'interdisciplinarité au service de leur propre discipline. Et ça, je pense que ça n'est pas très bon. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Et je trouve que, en tout cas dans le cas de notre association Mémoire du Rhône, on l'a expérimenté et ça donne des résultats intéressants, notamment les colloques.
C'est entré dans les mœurs universitaires aujourd'hui.
Alors c'est entré dans les mœurs. En tout cas à l'université de Lausanne, on a aussi des incitations fortes pour le faire. Et c'est notamment lié au fait que les problèmes sont de plus en plus complexes. Et souvent, on n'arrive pas à résoudre un problème avec une seule discipline.
On a un exemple que tout le monde connaît, hein, qui n'est pas lié à l'université, mais c'est le GIEC. Hein, le GIEC, ce groupe international des experts sur le climat, regroupe des experts justement de toutes sortes de branches et de disciplines pour produire leur rapport.
Exactement, parce que le climat, c'est un ensemble de phénomènes physiques, mais il y a toutes les interactions avec la société. Et dans le cas de l'évolution actuelle du climat, il y a toute cette composante finalement des causes humaines des changements climatiques. Et donc, on ne peut pas l'appréhender uniquement sous l'angle de la discipline de la climatologie.
On va se retrouver dans un instant, on va parler un peu plus, de façon un peu plus serrée, hein, de ce colloque de Mémoire du Rhône. À tout de suite.